Et votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Se rencontrer, se parler, Appel sur l'actualité est à Conakry. Juan Gomez.
Bienvenue, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Merci au public venu très nombreux au Centre culturel franco-guinéen. Merci infiniment de cet accueil. Nous sommes à Conakry, en Guinée, pour trois émissions exceptionnelles à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. D'ailleurs, lundi, nous donnerons exclusivement la parole à la jeunesse. Après 60 ans d'indépendance, nous verrons comment les jeunes perçoivent leur pays. Et puis mardi, le jour anniversaire de l'indépendance, nous retracerons l'histoire contemporaine de la Guinée. Mais aujourd'hui, 28 septembre, c'est un autre événement que la Guinée commémore, un événement tragique, les crimes commis il y a tout juste 9 ans dans un stade de Conakry. Ce jour-là, ce 28 septembre 2009, des milliers de militants de l'opposition s'étaient rassemblés pacifiquement pour protester contre la candidature à l'élection présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara, qui était à l'époque le chef de la junte militaire. La manifestation s'est transformée en massacre. Les militaires ont ouvert le feu, tuant au moins 157 personnes. Plus d'une centaine de femmes ont été violées sur place. Des dizaines de personnes ont disparu. 9 ans après ces crimes, l'instruction est certes terminée. La justice guinéenne a inculpé une quinzaine de personnes. Le gouvernement s'est engagé à organiser un procès. D'ailleurs, ce matin, vous l'avez certainement entendu sur l'antenne de RFI, Cheikh Sakho, le ministre de la Justice, l'a reconfirmé sans pour autant fixer une date. La date sera annoncée au moment opportun, a-t-il dit au micro d'Anne Cantonnerre. En tout cas, les victimes attendent encore et toujours que justice soit rendue. Alors, à quand un procès? Comment, depuis 9 ans, les Guinéens vivent-ils cette page sombre de l'histoire de leur pays? Nous allons évidemment en parler avec le public et mes invités que je vous demande d'accueillir. Khalifa Gassama Diaby, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. À vos côtés, Asmaou Diallo, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes l'un des visages de la lutte contre l'impunité en Guinée. Vous présidez l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre. Vous avez perdu ce jour-là votre fils aîné. Il s'appelait Mohamed Ali Konté. Il avait 33 ans. Florent Gel.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Responsable du bureau Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme, vous avez participé aux premières enquêtes de la FIDH après ces massacres. La FIDH, qui comme d'autres ONG, accompagne les victimes, et la FIDH s'est portée partie civile. Avant de donner la parole au public, en ce jour de commémoration, que ressentez-vous chacun d'entre vous? Asmaou Diallo.
Merci beaucoup, Anne. Je remercie tout le monde d'avoir vraiment eu le courage et le temps de venir assister à ce débat. Et 9 ans aujourd'hui, 9 ans d'attente, 9 ans de douleur, 9 ans de peine. Alors, nous victimes, nous sommes toujours quand même confiants parce que nous tenons à ce qu'on ait une justice malgré le temps qui passe. Mais on espère avoir une justice très bientôt. Je ne peux pas le dire, je peux pas dire qu'après 2020, mais avant 2020, nous voulons une justice pour que les victimes soient vraiment remises et à leurs droits. Parce que c'est des victimes qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin de reconnaissance, surtout au niveau national.
Alors 2020, pour tous nos auditeurs, est une année 2020. Très importante, puisque c'est une année présidentielle. Et les victimes que vous êtes et l'association que vous représentez souhaitent évidemment qu'il y ait un procès avant la tenue de ce scrutin présidentiel. Florent Gel, le défenseur des droits humains que vous êtes, que ressent-il aujourd'hui?
Un peu d'impatience. Vous savez, plus... c'est comme quand vous devez arriver à un endroit, plus vous en êtes proche et plus vous êtes impatient. C'est un peu ce sentiment-là aujourd'hui. Alors c'est vrai, il y a ces 9 ans qui ont été durs, qui ont été compliqués, qui ont été une bataille pratiquement quotidienne, avec des annonces en nous disant c'est pour l'année prochaine, c'est pour l'année prochaine, c'est pour l'année prochaine. Ce dont nous sommes convaincus aujourd'hui, c'est que ça doit être l'année prochaine, pas plus tard, pour les raisons que vous avez évoqué, l'élection présidentielle, mais aussi pour le temps. Il y a un temps pour la justice, c'est vrai, il peut être long, mais le temps est manifestement venu, même si on sait que c'est difficile, qu'il faut du courage politique et qu'il faut aussi du soutien et de l'unité nationale pour faire ce type de procès. Mais parfois, c'est nécessaire pour pouvoir tourner la page et pour pouvoir la lire, cette page.
Monsieur le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, je vous pose la même question qu'aux deux autres invités. Que ressentez-vous en ce 28 septembre 2018 ?
De la tristesse et des préoccupations. La tristesse pour les victimes, pour leur douleur, pour leur peine. La tristesse pour mon pays qui ne cesse d'accumuler des douleurs infligées à ses filles et à ses fils. De la préoccupation parce que ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas longtemps, nous avons perdu des compatriotes, plus exactement, à Manyana. Les histoires douloureuses servent à éviter d'autres histoires. Ce pays que nous aimons tant n'arrive pas à protéger ses enfants parce que nous sommes incapables de nous regarder autrement qu'à travers des prismes déjà définis, soit politiques, soit ethniques.
On va donner la parole au public et vous aurez évidemment tous les trois l'occasion tout au long de l'émission de réagir, de nous livrer vos réflexions. Diouma, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous souhaitiez témoigner ce matin sur l'antenne de RFI.
C'est avec beaucoup de tristesse que je parle du 28 septembre, car cette date revêt avant le 28 septembre 2009. C'était une date commémorative de l'accession de notre pays à l'indépendance. Que cet anniversaire soit souillé par la barbarie, par les forces armées. Dans tous les pays du monde, l'armée signifie sûreté, sécurité pour les citoyens. Le militaire est celui-là qui donne sa vie pour protéger celle de son concitoyen. Que cette armée, ce jour-là, le 28 septembre, je suis une des victimes peut-être chanceuses, parce que j'aurais dû, peut-être comme les autres, partir. Répondant à l'appel de toute la classe politique de notre pays et de la société civile, nous nous sommes rendus au stade du 28 septembre, qui porte le même nom.
Vous avez été un témoin direct de ces massacres, vous étiez dans le stade. Comment vous vivez ce jour au quotidien ? J'imagine que les souvenirs reviennent en permanence, vos nuits doivent être certainement cauchemardesques. Comment vous le vivez en tant que citoyen au plus profond de votre chair?
Je le vis au quotidien. J'ai eu, comme je l'ai dit, la chance de sortir du stade. Parce que quand on exubait, quand on était très content d'avoir réussi à pénétrer le stade, tout le monde était très content. Les leaders se succédaient au niveau de la tribune
oui,
pour faire des discours. Et soudainement, on a entendu les tirs. Au départ, les jeunes ont pensé qu'il s'agissait des tirs pour juste effrayer, disperser les gens. Les gens disaient, c'est faux, c'est faux. Et tout à coup, les premières personnes qui ont tenté de sortir du stade à partir de la porte principale, on les a vus tomber. Moi, j'étais arrêté sur la pelouse. J'ai vu les gens descendre des tribunes. Il y en a qui sont tombés. J'ai cherché par tous les moyens à sortir, et mon compagnon d'infortune ce jour-là, Tidiane Konaté, il arrivait un moment, il s'est lâché, il me dit bah, je ne peux plus. Je dis c'est pas le moment de se fatiguer. Et donc je vis cette peine. Je suis pas membre de l'association que Madame Diallo anime, mais discrètement à ma façon, j'ai aidé d'autres personnes qui étaient victimes, des femmes qui sont allées au Sénégal et qui ne voulaient pas être connues. Nous les avons aidés à se soigner. Et dans la banlieue, dans le quartier, les gens que j'ai connus qui ont été victimes, j'ai pu, de ma manière, aider ces gens-là.
Vous parlez des femmes. L'une des, malheureusement, spécificités, particularités de ce massacre, c'est qu'une centaine d'entre elles ont été violées sur place, sur le terrain. L'accompagnement des victimes, monsieur le ministre, c'est une attente. Que peut faire l'État pour accompagner ces victimes au quotidien?
Je crois qu'effectivement, la durée du procès a été évoquée. nous avons péché par le fait qu'il n'y a pas eu suffisamment d'attention vis-à-vis de ces victimes, parmi lesquelles il y en a qui ont subi des doubles ou des triples peines. Il y a des femmes qui ont été violées et après ont été abandonnées par leur mari et après ont perdu leurs enfants, d'autres le travail. Ce travail n'a pas été fait et c'est une faute morale et nous pensons qu'il est extrêmement important. Il n'est jamais trop tard pour bien faire qu'en attendant le procès, une attention particulière soit portée sur ces victimes pour les accompagner, pas simplement sur le plan moral ou matériel, mais aussi sur le plan psychologique et aussi justement leur montrer que la société, parce que je veux rappeler ceci, le 28 septembre, c'est une histoire guinéenne. C'est pas les noms des victimes qui comptent. Quel est le parti qui les a amenés? De quelle région ils sont? Hélas, dans notre pays, toutes les lectures sont faites à travers les noms. Moi, le chef de l'État m'a confié un travail. Parler de la nation et des citoyens. Je ne connais pas de parti politique, moi. Les noms de famille ne m'intéressent pas. C'est cette humanité sur laquelle notre pays doit travailler et regarder les victimes à travers le prisme de l'humain. Et ce travail d'accompagnement n'a pas été fait, hélas, et il doit être fait. Il n'est jamais trop tard pour bien le faire parce que les victimes en ont besoin.
Je donnerai la parole dans un instant à Asmaou Diallo et Florent Gel. On repasse le micro au public. Bonjour Ismaël.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Merci beaucoup. J'étais au stade du 28 septembre, j'étais sous la pelouse. Imaginez le choc que j'ai vécu.
Et vous avez l'impression d'être livré à vous-même depuis ce 28 septembre 2009, où malgré tout, même s'il y a des associations qui existent, il y a une aide psychologique, une aide sociale.
Bon, je n'ai pas bénéficié de tout ça. Mmh. Avec la force de mes parents, j'ai pu quand même me remettre. Je pense que c'est un événement qui marque mon existence et qui continuera à marquer tant que justice n'est pas rendue.
Alors justement, cette justice, vous l'attendez, j'imagine, avec impatience.
Absolument.
Vous avez confiance?
Écoutez, je suis dubitatif dans la mesure où certains acteurs principaux qui ont conduit notre pays vers ce drame continuent à servir dans les hautes fonctions de l'État. Ça veut dire qu'ils sont encore dans les bonnes grâces. C'est ce que nous déplorons. C'est ce que je déplore personnellement.
Florent Gel, sur ce point précis, justement.
Oui, bon, on parle du chef de la garde présidentielle, on parle du chef de la brigade anticriminalité, donc Thiegbourg et Pivi, qui sont des récidivistes. Hein. C'était les mêmes en 2007, etc., etc. Donc, on parle de personnes qui contribuent à la récurrence des violations des droits humains, etc. Évidemment que ces individus, compte tenu des charges qui pèsent contre eux, devraient être suspendus de leurs fonctions. Moi, je pense, et j'ai écouté le ministre réitérer cet engagement, cette volonté de considérer que de tels individus ne peuvent pas se présenter à la barre avec leurs galons aux épaules et voire d'intimider les gens. Je pense aussi que ce procès tant attendu, on le voit avec les témoignages de vos auditeurs et qui ont été victimes, que j'engage d'ailleurs de vous rapprocher des associations, parce que je pense que c'est l'union qui fait la force et c'est ça qui est important, et de montrer qu'il y a beaucoup de victimes, pas simplement les 500 victimes enregistrées au sein de la VIPA, ou qui sont partie civile aujourd'hui, mais que cette importance de ce procès, c'est réhabiliter les individus, mais c'est aussi réhabiliter une date historique. Le 28 septembre doit redevenir la date de la Guinée qui a dit non à la France. Ça, c'est important. Et seul un procès pourra le faire.
Monsieur le ministre, votre confrère Cheikh Sakho, ministre de la Justice, disait ce matin sur l'antenne de RFI, en parlant justement de ces personnalités inculpées qui occupent encore des responsabilités au sein de l'État, il dit, je cite ses propos, « À l'approche du procès, j'irai voir le président de la République et je proposerai que les personnes soient suspendues. » En tant que ministre ou en tant que Guinéen, trouvez-vous normal que ces personnes inculpées soient encore à des fonctions si importantes?
Écoutez, je voudrais d'abord saluer le travail du ministre de la Justice, car il faut reconnaître que depuis son arrivée, des pas importants ont été effectués. Madame Asma est là et elle ne cesse de se battre là-dessus. Et
je précise, si vous me permettez, oui. Monsieur le ministre, oui. que les différentes ONG sont d'accord oui. sur cet aspect des choses. Voilà. Depuis que le ministre Sacco s'occupe de la justice, effectivement, il y a une accélération dans le dossier.
Voilà. Et sur ce point précis, je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer ma position sur ce point dans un lieu important. C'était au Conseil des droits de l'homme de Genève. Je l'ai dit. Je crois que par respect pour le peuple de Guinée et pour les victimes, il n'est pas normal, tout en respectant la présomption d'innocence, il n'appartient pas à nous de déclarer ces personnes indiquées comme coupables. Cela revient à la justice, mais je crois qu'il était moralement et politiquement indiqué que ces personnes quittent leurs fonctions jusqu'à la fin du procès. Cela n'a pas été fait. C'est que le ministre d'État a dit, et j'exprime ici mon soutien et ma disponibilité à l'accompagner dessus, comme je le dis tout à l'heure, il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Il faudrait, bien entendu, il ne sera pas concevable autrement que ces gens quittent leurs fonctions avant d'aller rendre des comptes devant la justice. Merci.
Bonjour Ali.
Bonjour.
On vous écoute. Vous souhaitiez, vous, justement, parler de ces personnalités incontournables et indispensables pour la tenue d'un bon procès.
Bon, pour la tenue d'un très bon procès, M. Wan, le président de la junte, on ne peut pas faire un procès à son absence.
Vous parlez du capitaine Moussa Dadis Camara, qui ne vit pas en Guinée.
Qui ne vit pas en Guinée, qui vit en exil.
Il est en exil au Burkina Faso.
Donc, je suis vraiment dubitatif. Quand on entend le ministre dire que le procès aura bientôt lieu, tandis que le président de la junte est absent et le ministre de la Défense d'alors, le général Sokoba Konaté, est absent, comment peut-on nous tenir un procès ?
Asmaou Diallo, peut-il y avoir un procès crédible sans la présence des deux personnes citées à l'instant ?
Nous réclamons la présence de Moussa Dadis Camara pour ce procès. Sans le président de la junte, on ne veut pas du procès parce que ce ne serait pas un procès clair. Et parlant de Sekouba Konaté, je ne pourrais pas dire qu'il faut sa présence parce qu'il n'a pas été entendu. Mais ceux qui sont entendus et inculpés, nous tenons à leur présence en Guinée pour faire face à ce procès.
Sekouba Konaté, qui était au moment des faits ministre de la Défense, numéro 3 de la junte, puis président de la transition de décembre 2008 à décembre 2010. Florent Gel.
Oui, sur le cas de Dadis Camara et de Sekouba Konaté, je crois que c'est très clair. Dadis Camara a toujours dit que lui, il voulait venir rendre de compte, s'expliquer devant la justice de son pays. On a toujours dit, et je crois que c'est la position également du gouvernement, des juges, qu'il n'y avait pas de problème majeur et que c'était même attendu. Il y a des vraies questions des sécurités parce que Dadis Camara, c'est évidemment pas n'importe qui, c'est d'abord un ancien putschiste, il a pris le pouvoir, c'est un militaire et donc il y a des vraies questions de sécurité. Sur la question du général Sekouba Konaté, il a été pour le moment effectivement exclu, entre guillemets, par manque de preuves, pour être un peu simple. Cependant, il n'est pas à l'abri de n'importe quelle poursuite. Lui-même a déjà dit qu'il avait des révélations à faire, etc., etc. Il pourra toujours être entendu comme témoin, on pourra toujours trouver des preuves supplémentaires, etc. Mais le cas du général Sekouba Konaté ne doit pas empêcher la tenue d'un procès. Le temps de la justice est long et parfois la justice les rattrape, j'en veux pour preuve le cas Issa Dabré ou autre.
Monsieur le ministre.
Je pense que tout a été dit là-dessus. D'abord, c'est une règle juridique élémentaire. Si vous voulez tenir un procès équitable, tous ceux dont la participation permet l'éclatement de la vérité sont nécessaires au procès. Et au-delà, d'abord, je voudrais dire qu'on parle de deux compatriotes qui sont guinéens. Leur destinée, leur destin est dans ce pays. Ils doivent aussi retourner chez eux. Donc, d'abord, un pour le procès, mais après, ce sont des Guinéens qui doivent rentrer aussi dans leur pays.
Je vous propose de marquer une pause. Nous allons rendre l'antenne à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin et on se retrouve ici dans 10 minutes pour la suite de cette émission avec nos invités et le public du Centre culturel franco-guinéen. À dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.